Aujourd'hui, c'est notre deuxième ronde d'entretien cette semaine, on le sait, avec nos deux candidats-candidates à la mairie. Puis aujourd'hui, bien, c'est Mme Boulanger, Hélène Boulanger avec nous. Bonjour, Mme Boulanger.
Oui, bonjour François.
Alors, donc, on est pas mal au cœur de la campagne. Là, on est à quelque part à moins de 2 semaines du dénouement. Alors, au moment où on se parle, il y a de l'information qui circule de votre part, de la part de M. Pinault, des gens en général. Moi, je regarde passer ça objectivement, puis je vois de l'information, puis là, ça me permet de relancer sur des questions comme je l'ai fait avec M. Pinault hier, je le fais avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est de cette tendance à trop dépenser présumée de la ville, dit-on, dans certains milieux où que les taxes sont plus élevées à Lille? Est-ce qu'il y a des comparables? Est-ce que vous trouver que c'est fondé qu'on prétende que sous votre régime, les taxes ont monté puis que vous dépensez trop.
Que les taxes ont monté, c'est pas une fausse information, c'était un besoin, parce que si on regarde ce qui avait pu se passer dans les 30 dernières années, il y avait quelquefois les taxes ont baissé, mais la plupart du temps, ils n'ont pas augmenté ou même pas augmenté de la valeur de l'IPC. Ça fait qu'à un moment donné, il y avait quand même un manque à gagner qu'on a cherché à récupérer, à apporter une correction sur une situation qui était difficile. Ça fait que, mais de dire qu'on est l'endroit le plus taxé, on a fait le travail aussi d'arriver puis de voir les taux de taxation au 100 $ d'évaluation. J'ai moi-même été dans tous les modes de taxation de toutes les municipalités de la MRC. On est comparable. On est comparable plus haut, plus bas, médian, là, mais il n'y a pas nécessairement là, de choses qui sont marquées en notre défaveur, là.
Et puis pour ce qui est des dépenses générales de la municipalité, parce qu'il y a toutes sortes de projets, mais il y a aussi une façon de gérer le budget. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce qui s'est passé depuis 4 ans à Lille?
Très à l'aise. Puis, on peut y aller un peu en chassé-croisé, mais... Quand vous revenez avec cette question-là, j'ai pu aussi aller voir des commentaires ou des posts qui ont été faits là, sur les réseaux sociaux qui concernent les dépenses. Puis je veux mentionner une situation qui parle. Il y avait une liste des municipalités les plus dépensières de la province et Anticosti était en haut de liste, là, avec une valeur par habitant de 4 086 $. Ce montant-là, évidemment, il faut le remettre en contexte. Le titre d'abord, qui est un peu sensationnaliste, là, les municipalités les plus dépensières, il ne faut pas associer cette information-là avec un compte de taxes. Ça n'a rien à voir. Ce sont des dépenses administratives. Puis quand ce qui crée, ce qui justifie les dépenses administratives peut être généré, entre autres, par la grande quantité de subventions qu'on a reçues pour les projets qui ont été financés majoritairement, voire 100 % ou 97 %, ben, on a fait un revenu avec la subvention et une dépense administrative associée. Je ne sais pas si je l'exprime bien. Pour faire la mesure, une dépense qui est associée à un revenu, puis le revenu a été cherché par les subventions qui ont été versées.
Ce
Fait
que vous me
qu'évidemment,
dites, c'est que si vous avez beaucoup de subventions, de grosses subventions, ben les chiffres vont monter des deux côtés, c'est ça, dans le fond.
ben, oui, c'est parti, effectivement. Puis là, quand on arrive avec, je ramène un titre en disant les municipalités les plus dépensières, ben, moi, j'aurais dit les plus avantageuses par citoyen parce qu'elles ont été tellement cherchées de fonds que ça donne un montant qui est très élevé. Puis c'est pas appelé nécessairement à diminuer tout ça, là. Parce que, t'sais, on a encore des projets, là, où est-ce qu'on va aller chercher des financements puis qu'on veut les avoir de l'ordre de 100 %. Fait qu'évidemment, si on va chercher un projet qui est encore à 7-8 millions puis qui est financé à 100 %, bien, les dépenses administratives en lien avec ça, ils vont passer de 4 086 à 4 200. Mais quand on voit, puis je pense à Equanichit qui fait partie de notre MRC, entre autres, qui a un montant de 1 900 $, je suis persuadée que le maire aimerait bien ça, avoir des dépenses administratives de 4 000 $ par citoyen parce qu'il aurait été chercher en conséquence des revenus qui étaient équivalents. Fait que ça, c'est pas des taxes sur le compte de taxes, là. Pas du tout. Mais ça donne, ça biaise, l'information abiaise ça pour que le lecteur qui ne voit pas la distinction des deux choses, là, ben, il va les confondre puis dit, ah, mon Dieu, mais il paye donc bien cher de taxes. Mais c'est pas ça, là. Ça, c'est, s'il n'y a pas de lien. Je sais pas si je l'exprime bien pour vous, François, si Vous me saisissez bien dans ma façon de l'exprimer.
Ben, ce que j'en comprends dans ce que vous me dites, c'est que si vous allez chercher plusieurs subventions, des subventions importantes pour livrer des projets importants qui sont autofinancés par ces subventions-là, il va y avoir quand même un peu plus de dépenses administratives parce que le projet, il faut le mener à bien puis il faut le gérer. C'est ça?
Il va y avoir des dépenses administratives pour faire une certaine gestion, mais ça ne va pas. Les dépenses administratives sont aussi associables aux subventions. Okay. Alors oui, ça demande énormément de travail d'aller faire ça. C'est du travail à l'interne d'aller faire ça. Puis le travail, parce qu'il y a la masse salariale, là, mais quand on arrive avec une subvention ou même le travail peut être supporté dans le montant de la subvention, ben là, tu sais, c'est que donc, ce qu'il faut en conclure, c'est que d'être une municipalité qui administrativement a généré tellement de revenus par des subventions qui parlent le défaut. Parce que quand on a des subventions, il ne faut pas aller penser, j'ai entendu aussi, là, l'hôtel de ville, l'argent aurait pu servir à tant d'autres choses que ça. Quand on va chercher ces subventions-là dans un programme, faire un projet, ils ne nous donnent pas l'argent, puis après ça, on n'a pas de reddition de compte à faire, puis on fait tout ce qu'on veut avec, là. Tant qu'à y être, on va faire un chèque à tout le monde, puis on va toute la semaine à une piscine. T'sais. Je veux dire, l'argent doit servir à ce pourquoi elle a été demandée. Regarde, François, je vais vous donner un autre exemple avec l'hôtel de ville, qui fait partie du centre d'accueil municipal, dans lequel il y a 5 fonctions municipales. Fait que ce centre d'accueil-là, qui va avoir coûté à peu près 17 millions de dollars, là, pour l'instant, c'est une des seules choses qu'on a assumées. Ce qui va paraître sur notre compte de taxes, c'est la différence qui nous reste à assumer, moins de 500 000 dollars. Ce montant-là, on va faire un règlement d'emprunt. Puis, pour le règlement d'emprunt, il y a aussi des commentaires disant qu'avec cette folie, cet éléphant blanc-là, là, qu'on a créé, on va en avoir pour des générations à payer ça. 500 000 $ de dette, c'est un amortissement comme n'importe quel immeuble, même le vôtre ou le mien, là, quand on va s'acheter une maison, c'est un amortissement normal. Ça, c'est une génération normale pour payer un immeuble, un bâtiment. Puis le remboursement de cette dette-là, annuellement, va coûter approximativement le 32 000 $. Quand on restait chez notre locataire, là, précédent, on avait des frais de location qui avoisinaient autour de 45 000 $ par année. 12-13 000 $ d'écart de moins à payer l'hypothèque d'un bâtiment et d'une valeur de presque 17 millions de $. Je pense que la communauté, elle est bien gagnante. Ce qui va durer pendant des générations, ce n'est pas son paiement, c'est d'avoir un bien municipal. Lui, c'est les générations d'enfants futurs qui vont pouvoir en profiter. Il sera payé quand les autres générations vont être là pour pouvoir en profiter.
Autre dossier important, Mme Boulanger, les infrastructures, se mettre aux normes et en construire de nouvelles. Vous avez dit que vous aviez reçu là les subventions pour pouvoir aller de l'avant avec les études, à savoir combien ça coûterait. Si on revient sur ce dossier-là, on en est où?
Le projet des études, c'est pour aller faire des infrastructures à certains endroits ciblés. J'appelle ça dans le centre-ville, de Port-Meunier. Alors, cette étude-là, elle est commencée pour aller voir quels seraient les coûts associés à faire des infrastructures. Chose pour laquelle on a eu des autorisations vraiment extraordinaires, parce que tant qu'on n'est pas aux normes, on n'avait pas le droit de faire des embranchements pour les musées. Fait que donc, on est à l'étude pour savoir quels seraient les coûts associés à ce projet-là. Fait que ça, c'est une chose. Puis après ça, la mise aux normes, qui en est une autre, c'est la généralité. C'est de penser que notre service, par des grilleurs, là, notre service pour les eaux usées n'est pas aux normes, mais là, c'est une obligation. Fait que ça, c'est en cours. C'est encore un projet sur lequel on va aller chercher 100 % de financement. Fait que c'est des choses aussi, ça, qui sont ces deux dossiers. On parle des eaux usées, mais ce sont deux choses avec le départ de faire l'étude pour savoir combien ça coûterait pour faire de nouvelles infrastructures et, parallèlement, un autre dossier où on fait la mise aux normes de toutes notre procédure pour être capable d'évacuer et de gérer là, nos eaux usées.
Je me trompe ou c'est comme le solage d'une maison? C'est-à-dire que si tu veux développer la municipalité, si tu veux pouvoir bâtir d'autres maisons ou accueillir des commerces, il faut d'abord que tu passes par cette base-là d'être aux normes, d'être capable de te développer au niveau du réseau des égouts, puis de l'eau potable.
Tout à fait. Tout à fait. Il faut commencer par être capable de se brancher. D'ailleurs, pour ceux qui font des demandes de permis, notre capacité puis notre rapidité à pouvoir répondre rapidement n'est pas à la hauteur de notre volonté, mais il faut prendre le temps de faire les choses parce que pour être capable d'émettre un permis de construction, il faut que dans le projet de construction d'un citoyen, qu'il y ait la possibilité de se brancher à l'eau et avoir un service pour ses eaux usées. Fait que donc, si ça, c'est pas fait, puis je vous reviens avec votre question, si on n'est pas capable de faire en sorte que des terrains puissent avoir soit une forme d'autonomie par un fossé septique et champ d'épuration et les brancher à l'eau, ou développer quelques autres axes, là, si on n'est pas capable de faire cette étape-là, on ne peut pas émettre un permis. Il faut être capable de pouvoir se brancher pour avoir un permis de construction. Fait que donc, oui, ça aussi, c'est du travail précédent qu'il faut vraiment, encore là, faire avancer.
Bon, là, vous nous expliquez des choses que vous nous avez déjà expliquées à la radio, mais je pense que c'est clair et nécessaire dans le débat actuel. Moi, si je me présentais comme maire, j'aimerais expliquer ces choses-là. J'entends aussi présentement, puis M. Pinault l'a dit, donc je suis à l'aise d'en parler parce qu'il l'a évoqué en ondes, que la communication entre vos 4 années et la communauté, là, elle a manqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de communication. Et peut-être pas suffisamment d'écoute. C'est ce que l'on vous reproche dans certains milieux. Vous réagissez comment à ça?
Pas suffisamment de communication, je l'entends. Je l'entends bien. C'est une critique nécessaire. Alors ça, c'est une chose pour laquelle on peut apporter une correction. Hein, une façon d'apporter une correction, c'est dire des choses qui étaient faites précédemment, là. C'était d'avoir des communications à la radio, des choses qui étaient appréciées. Moi, évidemment, j'avais deux sons de cloche. J'entendais que des gens trouvaient que c'était trop. J'ai pas entendu beaucoup que des gens trouvaient que c'était pas assez, mais souvent que c'était trop. Je n'ai pas adapté. Alors, entre trop puis pas assez, j'aurais pu trouver un milieu. Ça fait que moi, c'est sûr que dans l'avenir, je vais faire une amélioration pour avoir de meilleures communications. Dire que j'avais pas d'écoute, j'aimerais mieux comprendre pourquoi. En tout cas, il y a une accessibilité. Toute personne qui veut me rencontrer, me parler, puis même, évidemment, c'est public, il n'y a pas besoin seulement de venir dans le bureau. Je veux dire, il y a des rencontres informelles qui se font sur le trottoir, à l'épicerie, à la commode, n'importe où, là, où est-ce qu'on a des échanges. J'ai tout le temps eu un accueil, puis une ouverture et une écoute. Les gens qui sont venus me rencontrer ont dit, oh, ben merci beaucoup, ça a été excellent. C'est sûr, François, que si quelqu'un vient d'une façon assez autoritaire, puis et contrarié, je peux comprendre, là, puis qui souhaite instantanément que je baisse les taxes, si je ne le fais pas, que ça augmente, puis ça décuple sa contrariété. Et là, s'il dit que je n'ai pas d'écoute, cette personne-là, ben il doit avoir raison parce qu'évidemment, il y a des choses. Vous savez, quand on se présente en politique, c'est un engagement, puis c'est volontaire, c'est un choix personnel qu'on fait quand on va dans ce sens-là. Mais par contre, on est appelé d'une façon mutuelle, ensemble, le conseil, là, à prendre des décisions puis à les porter. Fait que si des fois, il y a besoin d'apporter une correction sur une situation qui a duré pendant des années, évidemment, les gens peuvent être très défavorables. On va chercher à l'exprimer puis à l'expliquer. Mais c'est quelque chose qui est normal. Quand on pose des actions, tu sais, quand on fait des choix, quand on prend des décisions, on peut déranger, puis ça, je comprends bien ça. C'est quelque chose qui est normal. Puis les gens, tout le monde a droit à son opinion, et ça, c'est correct, là. Ce qu'il y a, c'est que moi, je pense que dans l'ensemble, quand même, l'ensemble de la population, il y a des fois qu'ils sont en désaccord, mais ils comprennent, puis après, ben, les choses s'ensuivent. C'est pour ça que je dis que dire que j'ai pas d'écoute, là, il faudrait être plus précis parce que je demande à m'améliorer. Mais si je ne suis pas capable d'identifier quelle est ma faute, il faut m'aider. Si quelqu'un me dit j'ai un tort, il faut être précis. Vous me dites la communication, je l'entends bien, on va apporter une correction là-dessus pour améliorer. Mais que j'ai pas d'écoute, ça me demanderait des précisions.
Madame Boulanger, j'ai souvent l'impression que c'est comme un peu avec un chef d'entreprise. Les employés, souvent, ils ont une préoccupation pour un point en particulier, mais le patron, la patronne doit avoir une vue d'ensemble de ce d'où elle s'en va avec l'entreprise, des besoins et des défis de l'entreprise. Au municipal, quand on est maire ou mairesse, c'est un peu ça aussi, là. Les gens ont souvent une préoccupation, quelque chose qui les touche en particulier, mais ça demande au maire ou à la mairesse d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur le plan pour que la municipalité réussisse, en fait.
Oui, absolument. Il faut avoir cette vision d'ensemble-là, cette vision de groupe-là. Et je le dis donc, s'adapter à ceux qui sont en place. Parce que je reviens sur un point aussi que je trouve étonnant, là, de prendre parti, de dire que si on doit travailler avec une équipe, c'est pas possible, et que l'ensemble d'une équipe serait complètement reclusé, là. Je donne un exemple. Il y a une conseillère, Chana Doucette, elle est présentement réélue par acclamation. Fait que donc, je ne sais pas si, qu'est-ce qui arriverait si les candidats, là, il y en a quand même deux là, que je ne connais pas bien, là, ils vivent pas ici au village, mais si ces gens-là sont élus, je ne sais pas s'ils ont la même vision que M. Pinault, ou s'il accepterait de travailler avec Chana Doucette, et sinon, qu'est-ce qu'il en ferait? Je ne sais pas, là, parce que y a une ambiguïté là-dedans, parce qu'on ne sait pas non plus ce qui va arriver. Il se pourrait même que le 2 novembre, il se pourrait même que ce soit moi qui entre. Est-ce que ces conseillers-là pourraient vouloir travailler avec moi? C'est une ambiguïté.
À l'inverse, je vais vous poser la question parce que j'ai posé la question à M. Pinault aussi, donc je suis à l'aise de vous la poser. Disons que vous êtes élu, mais qu'il y a certaines conseillères qui ne le sont pas, et puis on a de nouveaux conseillers qui apparaissent dans le paysage. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec ces nouveaux conseillers-là?
OK, je vais vous faire la réponse longue, François. J'ai, pendant les 4 dernières années, travaillé avec un groupe de 4 conseillères. Il y a eu des liens qui se sont tissés, mais ces personnes-là ont démontré un engagement, vraiment une collaboration, un partenariat d'exception. Et je leur lève mon chapeau là, pour tout le travail fait. Cependant, aux élections, ça va être le choix des citoyens. Si donc ce n'étaient pas les mêmes conseillères et que c'est moi, disons, qui rentrait, ben, je vais travailler avec ces gens-là. Puis on va s'adapter, on va apprendre à se connaître, puis on va refaire un bon travail. Parce que la démocratie, là, c'est pas moi qui peux dire à tout le monde pour qui voter. Chacun a son choix et sa décision. Ça fait que moi, pour moi, évidemment, François, que je vais travailler avec l'équipe qui sera en place, que ce soit les gens de bureau, les gens des travaux publics et les conseillers. On travaillera avec l'équipe qu'il y aura.
Bon, il n'y a pas d'ambiguïté sur votre réponse, en tous les cas. Je vais vous poser une dernière question, si vous voulez bien. C'est une question que j'ai aussi posée à M. Pinault lors de notre premier entretien. Compte tenu de la pression, du travail, des heures à mettre là-dessus, et c'est quand même pas un travail très bien rémunéré non plus, pourquoi vous vous présentez pour un deuxième mandat?
C'est un engagement à vouloir apporter par son travail une amélioration dans l'environnement municipal. C'est parce qu'on veut améliorer des choses, puis on veut s'investir en le faisant. Parce que comme je l'émettais tout à l'heure, il y a de l'énergie qui est mise là-dedans. Quand on est public, on porte le poids des décisions. Des fois, les gens sont très démonstratifs là, dans leur contrariété, si je peux dire, mais il faut avoir la capacité de passer au-dessus de ça pour se dire, je comprends qu'ils sont en désaccord. Des fois, les réactions sont vives, mais je dis à la blague, ils m'aiment dans le fond, ils ne savent pas, mais ils m'aiment dans le fond. Mais tu sais, c'est une volonté de servir, François. C'est une volonté de servir. Parce que, tu sais, c'est pas. Il y a des gens là, qui ont la fibre, la passion de la politique, là, puis ils aiment beaucoup être devant les micros ou la caméra. Il y a des gens qui sont plus comme ça, mais je pense pas, ça suffit pas. Il faut avoir quelque chose de plus fort que ça. Ça ne suffit pas. Il faut qu'intrinsèquement, là, ce qu'on veut, c'est améliorer. Améliorer, puis au maximum, avec toute la vitalité et l'énergie qu'on peut avoir.
On va se reparler une dernière fois, tout comme avec M. Pinault, vendredi de la semaine prochaine. Ce sera la dernière journée ouvrable avant l'élection. Je vous souhaite une bonne semaine d'ici là et on se reparle la semaine prochaine.
D'accord.
Merci à Mme Boulanger, merci à M. Pinault hier. Donc, vous avez compris, le prochain rendez-vous, c'est vendredi de la semaine prochaine. On sera à ce moment-là à quelques heures du vote et les deux entrevues seront diffusées dans la même heure, c'est-à-dire à compter de 15h10. Entre 15h10 et 16h, vous pourrez entendre les deux candidats qui s'adresseront à vous pour une dernière occasion. Cette entrevue a été réalisée grâce à l'initiative du journalisme local financée par le gouvernement du Canada.